Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je vais parler des pères de paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode avec Verino. Verino qui est humoriste, que peut-être vous connaissez grâce à YouTube ou grâce à ses spectacles. L'occasion pour moi de le remercier à nouveau d'avoir bien voulu faire le cobaye puisqu'il était mon tout premier invité en 2017. Vous entendrez d'ailleurs, le son est pas top, enfin on est en train de démarrer quoi, vraiment tout juste. Verino a d'ailleurs eu un troisième enfant entre temps et il sort un nouveau spectacle qui s'intitule Focus. Le lancement sera prévu au théâtre La Nouvelle Ève à Paris le 14 octobre prochain. Je vous mets un lien vers son site dans les notes de cet épisode. Je profite de cette intro pour vous dire de vous abonner à ma newsletter. Après mon départ de Mademoiselle mi-juillet, si vous n'étiez pas au courant, je vous mets un lien dans les notes du podcast. J'ai décidé de faire de ce média mon moyen principal pour discuter et échanger avec vous et aussi de vous tenir au courant de mes projets à venir. Vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Merci à vous, bonne semaine et à lundi prochain sur Histoire de Daron pour une nouvelle rediffusion estivale.
On est avec Verino.
Ouais.
Salut.
Je confirme.
Salut.
c'est moi, c'est bien moi. Merci pour cette invitation. Oh, attends, je vais mettre mon téléphone en silencieux pour ne pas vous embêter pendant la vidéo.
Le mec met son téléphone en silencieux.
Sur la montre. Ah oui.
Ça montre.
J'avoue que je suis un peu un geek.
Il est fort.
Ouais, c'est trop pratique. Du coup, j'ai laissé mon téléphone dans ma poche.
La classe.
Et tranquille. Donc bonjour Fabrice.
Bonjour. Tu veux
me dire ton prénom ou pas?
Oui.
Ouais, je suis pas Batman.
Non, je suis pas le daron masqué. Merci de faire le cobaye pour ce premier podcast.
Eh ben écoute, j'en suis ravi.
Qui est un pilote qui va d'un podcast qui s'appelle Histoire de Daron. Ça fait un petit moment que j'ai ça en tête où je voudrais discuter de paternité en fait avec des pères. Tu sais, le fameux père moderne.
Ouais.
Dont on parle depuis, je pense. 30 ou 40 ans qui est devenu une...
On nous a fait croire que c'était nos pères, on a bien vu que c'était pas ça. Donc maintenant, c'est à nous de devenir les pères modernes, ouais, je vois.
Tu vois l'idée. Et c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec différents pères comme ça, je me rends compte qu'il y a vraiment un truc qui switch justement entre nos propres pères et les pères qu'on est aujourd'hui. Je sais pas comment tu...
Ouais, j'ai l'impression aussi qu'on est... je pense qu'on a compris justement que nos pères devaient être ces pères modernes-là. Que la société a bougé beaucoup pendant nous. C'est à notre époque que les mamans ont commencé à travailler, c'est à notre époque que les papas ont commencé à faire un peu plus participer aux tâches ménagères, mais c'était encore un peu déséquilibré. Et j'ai l'impression que notre époque, nous, pour les gens qui sont vraiment conscients, les papas conscients ont vraiment cette envie d'équilibrer les choses. Et équilibrer, en gros, souvent, on pense à équilibre, on se dit qu'on fait autant de tâches ménagères. C'est pas forcément le cas. Moi, chez moi, je suis pas très investi dans les tâches ménagères. Mais c'est pas parce que je suis pas un papa bonheur. C'est parce que c'est comme ça qu'on s'est réparti les tâches. Alors, il s'avère que ça fonctionne de la manière dont toutes les sociétés fonctionnent depuis des millénaires. Mais c'est juste que je suis plus réactif sur d'autres trucs et ma femme plus. Et puis que je suis comédien et que je suis en tournée et qu'il faut bien que la baraque elle tourne quand je suis pas là. Mais voilà, j'ai quand même cette sensation, en tout cas sur l'éducation, qu'on a beaucoup plus de place à prendre.
Alors justement, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce possible? Tu es Verino, donc tu es...
Vous faites pas d'efforts, les gars.
Ils sont
encore beaucoup, en fait. Ouais, écoute, petit à petit, ça progresse, je sens. Je vois ça, moi, à mon lieu de vacances. Je vais tous les ans au même endroit.
Ouais.
Et d'année en année, je vois que c'est de plus en plus difficile d'être tranquille dans son jardin.
Oui, plus ça va, plus tu prends des selfies de plus en plus. Etc.,
exactement. Ce qui me plaît, c'est que les gens sont sympas. J'ai que des gens sympas qui viennent me parler.
J'espère que ça te plaît, parce que tu l'as un peu cherché quand même.
Non, c'est ça. C'est vrai que c'est difficile d'être humoriste inconnu, ça ne va pas être évident.
Effectivement, tu es humoriste, tu as une chaîne.
Ouais.
Donc tu t'es fait surtout connaître par... moi j'ai en tête, dis-moi si c'est une connerie, mais par l'émission de Laurent Ruquier qui t'a permis d'exploser en fait.
Il y a eu plusieurs étapes, effectivement. Il y a eu avant Ruquier, où il y a eu Montreux, où il y a eu des festivals, pas mal de festivals un peu gros, Montréal par exemple, et Montreux qui était diffusé en France, où là j'ai eu une espèce de pré-notoriété. Et puis, pré-notoriété qui m'a poussé à ne pas rentrer tout de suite dans l'émission de Laurent Ruquier, parce que je me suis dit, c'est chiant de se faire noter. Et puis, en réalité, deux ans plus tard, je me suis bien rendu compte que c'était et d'une nécessaire, puis que deux, ça allait me faire du bien d'écrire aussi. Et ouais, cette émission m'a fait monter, quoi. Et bizarrement, Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus Internet encore.
Oui, ouais. J'allais t'en parler parce que pour moi, aujourd'hui, c'est ton relais, en fait, c'est ta chaîne YouTube.
C'est ma chaîne YouTube, ouais. L'indépendance, le rêve ultime de tout ce qu'on veut faire au début de notre carrière. C'est-à-dire que quand tu veux écrire, que tu veux jouer, t'as envie de faire ça de manière... Moi, j'ai envie d'être libre. C'est mon but ultime. C'est pas du tout d'être connu, tout ça. C'est juste la liberté et le bonheur d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et malgré tout, quand on se retrouve confronté au fait que pour passer des étapes, il faut passer à la télé, donc être esclave des médias, des mecs qui dirigent les chaînes, des mecs qui dirigent les productions, tout ça, ben on se dit ah mince, il n'y a pas d'autre solution. Et puis YouTube est arrivé et on se rend compte de ce formidable espace de liberté totale qui est pour moi équivalent à l'espace de liberté que j'ai sur scène. Et je suis très heureux depuis 2 ans que j'ai monté ma chaîne.
Bon, je vous mettrai tous les liens, etc., pour que vous puissiez aller voir.
Cette interview est déjà trop longue ou pas?
Ça va, écoute, c'est une intro. Ça va. C'est un podcast, on va prendre un peu le temps, tu sais, on a vraiment le temps. L'objectif, en fait, c'est de ce podcast, c'est de parler un petit peu de ton parcours de père et de ta vie de père aujourd'hui. Ouais. Pour commencer, en fait, comment t'en es venu, toi, à devenir père? Parce qu'on va partir de là.
Eh ben, écoute.
Complètement par hasard.
Vous vraiment voulez un dessin? Il y avait une meuf. Non, déjà, je suis un papa dans l'âme. Moi, j'adore les enfants. J'ai toujours vraiment aimé les enfants. Je m'éclate. Enfin, ouais. Je pense à ma petite nièce quand elle avait 3 ans, qui avait le droit de donner la main aux adultes. Il fallait qu'elle donne la main aux adultes pour traverser. Elle savait pas si j'étais un adulte ou pas. Je suis un joueur, moi. Je suis un gamin aussi. Et puis, avec ma femme, on est ensemble depuis très longtemps. On s'est rencontrés au lycée. Donc, ça fait 17 ans que je suis avec ma femme, bientôt 18. Et on a très vite eu envie de faire des enfants parce que c'est la femme de ma vie, et puis je l'aime, et puis elle est magnifique, et donc on avait envie de créer une famille un jour. Et puis il y a eu un moment où je sais pas si t'as entendu cette fameuse phrase du ce sera jamais le bon moment, et qu'on a tous en tête évidemment ce sera jamais le bon moment, mais en fait c'est à partir du moment où on prend conscience que ce sera jamais le bon moment que ça devient le bon moment. C'est tout le paradoxe de ce moment là et c'est le moment où je me suis dit effectivement ce sera jamais le bon moment. Et ben là j'ai réalisé bah oui, mais c'est maintenant, en fait, en réalité j'ai envie, et ça m'a changé ma vie vraiment, ça m'a fait du bien, en fait, ça m'a enlevé tous les trucs bizarres que j'avais dans la tête de ma propre éducation où t'as des choses à reprocher à tes parents évidemment.
Attends, tu spoiles aussi. Pardon. On y reviendra plus tard.
Donc je suis devenu papa le jour où on s'est marié, en fait, avec ma femme.
Okay.
On est parti en voyage de noces. On n'a pas pu à l'époque parce que c'était à cause du volcan Eia,
Islandais, là, oui.
Ouais. Donc du coup on est parti dans le sud. On a pris notre petite voiture, on est descendu. Enfin, on a loué une voiture. On est descendu dans le sud et puis au bout d'une semaine, je me suis dit qu'en fait, ça me faisait du bien d'être pas uniquement centré sur mon spectacle. Et je lui ai dit, mais tu sais quoi, moi je gardais des enfants au début de ma carrière parce que j'avais besoin d'argent, puis au fur et à mesure de plus en avoir besoin, je me suis dit, bon tiens, j'ai aussi besoin de temps, donc libérons. Et puis je me suis dit, non, je vais regarder des enfants, en fait, ça me fait du bien, et tant pis, financièrement j'en ai pas besoin, mais au moins avoir des enfants tous les soirs avant d'aller jouer mon spectacle, m'occuper de sorties d'enfants. Et c'est là que ma femme m'a dit, mais t'es débile, quoi, c'est exactement ce qu'on se disait, c'est il n'y a jamais de bon moment, mais là, tu es en train de me parler du bon moment. Tu veux garder des enfants le soir pour te sortir de ton quotidien d'auteur, bah, garde les tiens, quoi. Et donc, voilà, on a décidé à ce moment-là d'en faire.
Ok, donc, tu as 34 ans aujourd'hui, bientôt 35, c'est ça?
Ouais, j'avais 28 quand Victor est né.
Voilà, tu as 2 garçons.
Ouais, 6,5 et 2,5.
6,5 et 2,5. Comment s'est passé? Alors, est-ce que tu as des souvenirs en particulier de la grossesse?
Ouais, ma femme est heureuse enceinte. Ouais, elle est heureuse enceinte et j'ai que des souvenirs d'une femme épanouie, heureuse avec son ventre, qui a mal évidemment, et puis évidemment c'est compliqué, mais je crois que le meilleur souvenir que j'ai de mes 2 grossesses, c'est la première grossesse. Mon grand s'appelle Victor, mon deuxième s'appelle Marius. Le grand, on était dans un tout petit appartement et... C'est pas nécessaire de le dire pour cette histoire-là, mais en tout cas, c'était le cas. Et on avait un petit lit. Enfin, un petit lit. On avait un 140. Mais aujourd'hui, comme les lits font 160 et que du coup, c'est très bourgeois, le 140 en était très serré. Et quand tu dors avec une femme enceinte dans un lit de 140, tu sens bien que c'est un petit lit. Et une nuit, c'est Victor qui m'a réveillé. Donc, elle était enceinte et puis il bougeait. Et ça devait être vers son 7e mois, je pense. Et elle s'est pas réveillée. Et bien ça, je crois que c'est le moment où je me suis dit, putain, c'est la première fois que j'ai un rapport avec cet être qui va être mon fils, quoi.
Juste pour toi.
Ouais. Mais on a du mal, je sais pas comment t'as géré ça, toi, mais J'avais du mal à comprendre que j'allais être papa. Et je crois que je l'ai vraiment capté. C'est-à-dire que j'ai le concept global. Ma femme est enceinte, il faut lui laisser la place dans le bus. Ça, j'ai. Elle a un peu plus de mal à se balader, tout ça. Mais j'ai eu un flash à 2 semaines de l'accouchement où je me suis dit, c'est. Pour le premier, hein, le deuxième, évidemment, t'es déjà papa. Mais pour le premier, où tu vois toute ta vie basculer et tu te dis, mais c'est les 2 dernières semaines de ma vie où j'ai pas une responsabilité, quoi. Je crois que c'est les 2 moments où ça m'a vraiment percuté. Ce moment où j'ai rencontré mon fils, moi tout seul, et puis ce moment où j'ai réalisé que où je me suis rencontré moi en tant que papa. Profite bien de ces 2 dernières semaines. Ce qui est faux, en fait, puisque tu le sais aussi bien que moi, quand on est papa, on peut continuer à profiter de la vie.
Bah oui. Mmh. Ouais, en tout cas, on peut profiter de la vie, mais il y a cet aspect responsabilité aussi qui est intéressant, ouais. Qui est, pour le coup, tu t'en débarrasses plus jamais, quoi.
Ouais, ça y est, ouais, c'est vraiment ça, ouais. Quand t'es bourré, tu te dis, ouais, mais s'il se passe quelque chose, il faut qu'il y en ait au moins des deux qui soient à jour, effectivement. Et à la fois, c'est aussi un gain de temps terrible parce que t'as des limites que t'as plus quand t'es un jeune adulte qui commence à gagner sa vie. Enfin, je sais pas comment t'as géré ça, mais moi, je sais que nous, j'avais 17 ans, j'en ai 35. Donc, on a tout vécu, mais à partir de 22-23 ans, on a commencé un peu à gagner notre vie. Et puis, à partir de 24-25, où j'ai commencé à jouer un peu plus, c'était assez cool, quoi. J'avais un salaire de mec normal, alors que quand on est humoriste, tu sais très bien que c'est impossible d'avoir un salaire de mec normal. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est trop cool. Mais donc, effectivement, on a pu en profiter un petit peu, aller partir en voyage et tout ça. Et à partir du moment où t'es toujours un enfant comme je le suis, mais avec un salaire de mec normal, t'as pas de limite, quoi. Et puis, t'as bien vu que je suis un gros geek en plus. Donc, voilà. Et en fait, d'avoir un enfant, bah, ça te replace tout de suite, ça te remet dans le monde, dans la limite absolue, quoi. C'est-à-dire que c'est maintenant, ici, il n'y a pas toi, il y a tout ce qui découle de tes décisions.
Très intéressant. On y reviendra plus tard, mais comment s'est passé l'accouchement ? C'était bien ?
Ouais, c'était génial.
Quel souvenir t'en as ?
Bah écoute, c'était drôle encore une fois. Elle est venue me réveiller à 8h du matin. Bah, pour la petite histoire, c'était le lendemain d'un sketch que j'avais raté sur justement l'émission de Laurent Ruquier. Donc j'étais un gamin, c'était mon deuxième sketch dans l'émission, j'étais pas bien. Et puis à l'époque, il y avait un truc, il fallait revenir en direct la semaine d'après et tout ça, si jamais on échouait. Donc j'avais raté mon sketch, il m'avait dit, ce serait bien que tu reviennes en direct la semaine d'après. Je leur ai dit, non, moi c'est mort, la semaine d'après je suis pas dispo, quoi. Donc évidemment, eux, me prenant pour un mec qui se prend pas pour la mère, ils m'ont dit, qu'est-ce qui t'empêche de venir travailler ? Je suis passé le jour de l'accouchement prévu de ma femme. Ok, bon alors ça va. Mais en fait, je rentre chez moi dépité parce que j'ai raté ce truc-là, puis à l'époque, je croyais que tout était important. J'avais pas d'enfant. Donc chaque chose que je faisais avait une importance cruciale. Et notamment cette émission-là dans laquelle on savait qu'on passait à la télé. Voilà, on est tous passés par là. Quasiment tous les humoristes sont passés par là. Et il y en a énormément qui se sont plantés. Et ça n'a pas eu d'impact négatif sur leur carrière. On pense à Kéron, Bérangère. On peut en citer 15. Bérangère, enfin bref, il y a des tas d'humoristes qui sont allés dans cette émission et qui se sont plantés. Mais moi, on l'a tous vécu comme ça, c'est-à-dire que l'impact est dur. Je rentre chez moi, je passe une nuit blanche horrible à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, quels ont été mes mauvais choix. Et puis du coup, je dors très peu et le matin à 8h, ma femme me réveille en me disant tu veux être papa aujourd'hui. Et je lui ai répondu c'est sûr parce que, parce que là. Elle me dit, bah oui, c'est plutôt sûr, j'ai perdu les os. Ok, je me lève, on appelle un taxi, on va jusqu'à la maternité en taxi. Chose que, enfin, pour moi, j'étais élevé au film américain, donc c'est normalement, on cavale dans la rue et c'est le. Non, pas du tout, on prend ses affaires, on appelle le taxi, bonjour, il vient, on s'assoit, on va jusqu'à la maternité, on patiente, le mec arrive, il dit bonjour, bah voilà, où est-ce qu'on en est. Enfin, c'est vraiment, c'était absolument détendu. J'ai envie de savoir comment ça s'est passé pour toi, mais comme t'es de l'autre côté de la caméra, du coup. Et donc, ils nous ont dit à 11h du matin, quand on est arrivé, quand ils ont ausculté ma femme, ils m'ont dit bah écoutez, là, en fait, non, il se passe rien, enfin, revenez à 14h. On est parti au resto, manger. C'est le jour de ton accouchement, elle a des contractions, elle est en train de manger au resto. Et elle est revenue à 14h, mais entre temps, elle avait des contractions de dingue, donc elle était dans la rue. Non, je marche. Je dis, mais viens, là, faut qu'on y aille, t'es quand même pas bien. Non, ils m'ont dit 14h. C'est une warrior, ma femme, vraiment. Et arrive à 14h, elle était dilatée de 8 cm. Ils m'ont dit, non, c'est le dernier moment pour la péridurale. Puis en fait, elle a accouché à 17h, il était né, mon fils. De 4,425 kg.
Ouais. C'est un beau morceau. Ouais.
Ma femme est grande.
Et donc, effectivement, l'accouchement s'est donc plutôt bien passé.
Ouais, très bien passé.
Toi qui disais que t'avais eu du mal à. comment dire, à te projeter en tant que père, en tout cas 2 semaines avant. C'est quoi le moment de la découverte avec ton fils, donc?
Je crois que c'est immédiat. Immédiatement, je l'ai vu. Il a été, donc il était, ma femme l'a pris, elle l'a posé sur, et je me suis vu, on s'est vu en famille, quoi. J'ai pas eu le moindre doute, et je ne savais pas que c'était un garçon pendant très longtemps, genre 2 minutes. Pendant 2 minutes, je l'ai juste regardé en pleurant avec ma femme, on a un enfant, et on n'avait pas demandé son sexe à la naissance. Puis à un moment, on s'est dit, mais c'est un garçon ou une fille? Et c'est drôle de voir qu'on avait, ça n'était pas du tout important. Et puis la sage-femme nous dit, bah regardez quoi. Et donc on l'a soulevé, on a vu son petit zizi, c'est un garçon.
Vous n'aviez pas demandé le sexe?
Non, la... on ne voulait pas savoir. J'ai aucune envie d'avoir, et c'est encore le cas aujourd'hui, si on avait une 3e grossesse. Je ne peux pas dire je veux un garçon ou une fille, je m'en fiche complètement. Je veux un enfant que j'aime et qui, avec qui, et qui j'espère, changera le monde. Et donc voilà, et donc ça, ouais, c'est ce moment-là, directement, j'ai pris conscience de ça. Ouais, je me suis endormi avec la photo de lui sur le portable. Enfin, c'est des trucs qui, quand on n'y est pas, semblent...
Un peu niais, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Mm. Bah oui, enfin, moi, j'ai jamais jugé les gens comme ça, mais en attendant, je comprends qu'on puisse se dire, bah, attends, mec, il a 2 heures, ton bébé. Enfin, tu vois, tu le connais pas. Oui, t'es papa, c'est bien, mais t'es pas encore papa, il a 2 heures. Mais si, t'es papa à la seconde. T'es papa, t'es responsable. Je revois le lendemain, quand je suis retourné à la maternité, que ma femme était en larmes parce que... La sage-femme lui avait dit, ce serait bien d'aller baigner le bébé, et qu'elle lui avait dit, j'aimerais bien que ce soit le papa qui le fasse. Et la sage-femme lui avait dit, oui, bon, si tout le monde fait comme ça. Hein. Et donc j'arrive, ma femme en pleurs, et j'ai fait engueuler. Et puis donc je vois la sage-femme, je dis, bah, pour qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, mais là on est à la bourre et tout. Et je dis, oui, je comprends très bien. Maintenant, je trouve ça super qu'une maman, elle dise, j'aimerais bien que le bain, ce soit le papa qui le fasse, quoi. Et je trouve ça vraiment beau. Ça veut dire que c'est pas la maman qui prend toute la place. Ma femme a toujours, on a vraiment. Elle a aussi cette maturité-là de dire, bah, je veux être maman, mais je veux que tu sois papa. Et un papa, c'est pas forcément c'est pas le papa bourru qu'on imagine, c'est le papa qui donne les bains, qui fait à manger, qui s'occupe de tout ça. C'est pas que le papa qui joue. Et voilà. Et donc elle a tout.
Quand tu dis que tu joues, tu fais ton métier en fait.
Ouais, c'est ça. Avec mes enfants. Et ils me payent d'ailleurs. Faut que je les fasse payer. Mais ouais, ils sont trop. Et j'ai trouvé ça génial que le lendemain, effectivement, ma femme se batte alors qu'elle avait évidemment. Déjà, elle avait une anémie de dingue. Et puis qu'ensuite, bah, si tout qui s'effondre. Elle n'a pas eu de baby blues. Parce qu'elle était trop contente, quoi. Elle a attendu ça toute sa grossesse. Et elle adore être enceinte. Et là encore, elle m'en parle. Putain, c'était génial. Alors qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est difficile. Je comprends aussi, c'est normal. Donc moi, c'est des bons souvenirs. Excellent. Les 2 grossesses, c'était génial.
Vous allez en faire un 3e ou pas alors?
C'est pas d'actualité parce qu'il y a quand même beaucoup de 3e, à mon avis, ta vie bascule réellement. Mais c'est pas quelque chose qu'on exclut. On sait qu'on est un peu débiles tous les deux, on sait qu'on aime bien être atypique et ça se trouve on en aura 10, tu vois. Et ça se trouve on en aura que 2. Mais on prend les décisions au fur et à mesure, mais peut-être.
Vous bossez ensemble aussi, c'est ça?
Et oui, on a monté une boîte de production il y a quelques années parce qu'on voulait monter un spectacle, on voulait monter l'Inglorious Comedy Club. Je voulais vraiment monter un plateau et j'en ai parlé à ma boîte de production à l'époque qui se disait que c'était pas sa priorité, ce que je comprends totalement. Donc du coup, on l'a monté avec ma femme et puis en fait c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée de notre vie parce que cette année-là j'ai eu la chance de faire une pub qui m'avait, en gros ça me permettait financièrement de faire en sorte que pendant 6 mois elle travaille pas. Et bah du coup on a arrêté de bosser pendant 6 mois, elle était instite. Elle était prof des écoles. Sinon je me fais engueuler par tous les instits.
Oui.
Et j'aime bien remuer le couteau dans la plaie en disant quand même que c'est des instits. Et elle aimait staff, mais pareil, c'est très compliqué d'être prof des écoles, d'être dans l'éducation en France parce que tout est limité. Tout est dans un carcan, on doit rendre des comptes à un supérieur. On peut pas éduquer les enfants avec quelque chose dans lequel on croit. On doit respecter le cahier des charges qui est évidemment stupide dans la mesure où déjà c'est un cahier des charges et que l'éducation, notre cerveau, enfin bref, ça c'est un autre sujet, c'est pour ta prochaine interview de comment éduquer des enfants qui ne sont pas les nôtres. Mais en attendant, je pense vraiment que l'éducation mériterait d'être revue. Et donc ma femme se trouvait un peu coincée là-dedans, c'est-à-dire qu'elle avait envie, évidemment de participer à la vie de tas d'enfants, mais on a eu cette opportunité-là justement de monter notre boîte et puis d'essayer de faire un projet en plus qui pourrait fonctionner. Et puis on a toujours rêvé de bosser ensemble, hein. Ça faut le reconnaître aussi, c'est notre rêve de gamin. Et puis on a toujours bossé ensemble. Elle m'a toujours aidé à écrire. Elle a été et d'une ma muse et de deux ma réflexion. C'est-à-dire que je lui envoie les choses, elle est capable de me les renvoyer, de me dire moi je comprends pas les choses de cette manière. Donc on écrit ensemble. Et puis de monter cette boîte là, ça nous a fait du bien. Derrière, on a pu produire les dis donc Internet, mes vidéos. Et puis maintenant, Tania Butel, j'entends juste son prénom parce que tu connais son travail. Et ça, pareil, je suis très heureux. En fait, Tania, c'est même pas de la production, c'est juste accompagner quelqu'un que j'aime bien. Et je suis même pas sûr d'avoir les épaules pour pouvoir produire réellement cet artiste. Je me dis juste, moi, quand j'étais gamin artiste, j'avais pas la chance d'avoir juste quelqu'un qui me soulage, juste quelqu'un qui ait des idées pour moi, qui puisse m'accompagner. Et on n'a que des grosses productions aujourd'hui qui cherchent des produits très rentables. Nous, on a le luxe avec ma femme de ne pas être obligé d'être rentable puisque je gagne ma vie. Et donc, notre boîte est là juste pour faire des projets cool et s'amuser. Donc, on bosse ensemble, mais c'est pas le boulot de « il faut que ça marche ». C'est le boulot de « viens, on s'amuse ».
Comment ça s'inclut, votre vie de parent, alors, dans cette vie
C'est une vie... Tout est lié. On est vraiment... Moi, je suis passionné par le stand-up et par mes créations. Je ne suis pas passionné par mes créations, je suis passionné par la création. Et donc, évidemment, le fait de créer, je suis tout le temps dessus. Marion, ma femme, est tout le temps en réponse à ça. Et notre vie de famille, même, s'articule autour de ça. On n'en parle pas forcément avec les enfants, mais on est toujours, nous, alertes. Ouais, j'ai l'impression que c'est une sorte de package complet, quoi. Tout est fluide. Et mes enfants ont l'habitude de me voir écrire sur mon ordinateur tout seul avec mon casque anti-bruit pour que je les entende pas courir dans tous les sens. Et en même temps, pouvoir me tirer sur le pull s'il y a vraiment une urgence. Et puis pareil pour ma femme. Mais du coup, on est souvent au square avec notre portable à taper un truc pendant que le deuxième est en train de jouer au ballon. Puis on échange et puis on bosse énormément. Mais j'ai bizarrement pas l'impression du tout qu'on ait des parents absents. Au contraire, j'ai l'impression qu'on ait des parents extrêmement présents. Et même mes enfants le disent, on est très présent. On travaille, on est efficace, je crois. On essaye.
Et t'arrives à profiter à la fois de tes enfants et de bosser en même temps, d'avoir toujours ce truc.
Oui, oui, oui. Déjà, j'ai la chance, c'est que mon art, c'est du stand-up. Donc, il est dépendant de ma vie. Donc, plus je vis de choses, plus je vais avoir de choses à raconter. Donc, c'est... Finalement, je m'enrichis, moi. Je considère que ouais, vivre, déjà, ça fait partie de mon travail. C'est obligatoire. Parce que si je ne vis pas des choses, je ne vais pas pouvoir en tirer quelque chose. Donc, je suis observateur. Sauf qu'avant, j'observais les autres. Là, j'observe mon fils. J'observe notre relation. Enfin, j'observe mes fils, évidemment, mais le grand a 6 ans et demi. Donc, on a un rapport différent. On peut se chambrer, on rigole. L'autre jour, j'ai mon petit qui veut un yaourt et le grand qui veut un yaourt. Et finalement, je donne le yaourt au petit. Et puis quand le petit me dit « Mais pourquoi c'est lui qui a le yaourt ? C'est dégoûtant. » C'est parce que tu le sais très bien, dans une famille, il y a toujours un enfant qu'on aime plus que l'autre. Et dans ce cas-là, c'est Marius qui me regarde. Et je me suis dit « Là, je suis allé trop loin dans l'ironie, vraiment. » Mais je manie souvent ça avec lui. Et il me regarde et il me dit « Papa, je comprends ce que tu me dis parce que moi, tu sais très bien qu'il y a un des parents que j'aime moins que l'autre. C'est normal. » Il est dans l'ironie, dans la justesse. Et en vérité, l'idée, c'était pas de filer le yaourt au petit, c'était qu'il prenne la moitié du yaourt et qu'ensuite il le file au grand. Et lui a refusé, en disant non, maintenant que j'ai compris la démarche, ça me va.
Maintenant que je sais que je suis le moins préféré.
Et c'est trop mignon parce qu'on a le droit de jouer avec lui. Il sait que tout est jeu, quoi. Tout est. Ah, j'adore ça. J'aurais rêvé d'avoir sa vie. Ça doit être vraiment cool.
Est-ce que t'es, alors peut-être pas le petit parce qu'effectivement il est encore petit, mais est-ce que le grand, ça y est, se rend compte que en fait
que je fais des blagues,
ouais, c'est ça, que ton métier, ouais. t'as pas un métier de,
mais c'est marrant parce qu'il le ressent pas comme j'ai souvent vu des interviews de papa qui expliquaient, enfin un Shabbat ou tu vois, quand moi j'étais gamin, qui expliquaient que leurs enfants ils se rendaient pas compte, et c'est vrai. Moi, mon fils, il voit bien que dans la rue, on va au square, et oui, il y a des papas, des mamans qui viennent me parler, il y a des mecs qui font des selfies et tout, et puis il me dit juste « il te connaît ?» Et c'est juste ça. Et puis lui, ça lui rend bien service aussi, parce que les gens sont sympas avec nous, en fait, on est dans... Je draine un public très cool, j'ai pas de cinglé, je suis pas Kev Adams, et c'est vraiment très agréable. J'ai que des gens qui savent s'exprimer, qui sont pas barges, et quand ils veulent faire un selfie, c'est parce qu'ils aiment bien mon travail. C'est pas il est connu, on n'a jamais vu son spectacle, mais il est connu. Je suis pas à ce stade de notoriété, donc j'ai que des gens sympas. Et donc Victor, bah, il vit ça comme ça. Oui. Il aime bien, je crois. Et le petit, il a compris que j'allais au théâtre, par contre. Lui, il sait que je pars au théâtre. Il sait comment ça marche. Je pars en tournée. Mais je crois qu'il sait pas encore ce que je fais exactement. Mais en même temps, il y a aussi un truc, c'est que je fais le montage à la maison de mes vidéos. Donc il me voit sur scène faire des blagues. Il m'entend de monter. Il voit avec du public derrière. Donc je crois qu'il capte. Mais c'est un métier comme un autre pour eux.
Tes tournées, elles peuvent être longues.
Et ben pas tant que ça. Là, je crois que ça va être cette année ma première grosse période de tournée. Mais en gros, je pars 3-4 jours d'affilée max. Okay. Ou alors quand on part à Montréal, la dernière fois que j'y suis allé avec eux. Mais sinon, je pars 10-15 jours. Ou j'avais un Avignon, où là on part vraiment 30 jours. Mais globalement, je pars un jour, je reviens le lendemain, un jour, le lendemain. Après, ça peut s'enchaîner. C'est-à-dire que je pars un jour, je reviens le lendemain, j'ai quand même le temps de manger avec eux à midi et puis je repars. Mais c'est pas 3 mois sur les routes.
Les vois pas.
Ouais.
Quand ils reviennent, ils ont pris de la barbe.
Ouais, c'est ça. Là, c'est pas ça du tout. Ils kiffent, ils ont bien compris. Ils m'appellent le soir pour me raconter leur journée. Ils se mettent tous les deux sur le canapé avec FaceTime. On a de la chance aussi.
C'est une technologie.
Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ils ont leur dit et ils discutent. Et aujourd'hui, tout va bien.
Ok, cool.
Et ils se tapent dessus pour être dans l'axe.
Alors, on parlait tout à l'heure d'à quel point ton... Comment dire le fait d'être parent avait éventuellement changé ton propre rapport à l'éducation.
Mais du jour au lendemain. Mm. C'est fou parce que on a tous des choses à reprocher à nos parents. Parce qu'en vrai, c'est des gens qui ont fait de leur mieux. Et il peut aussi y avoir des choses que nous, on considère comme des erreurs, mais qui en fait n'en sont pas. Et je pense qu'on prend conscience mieux de ça quand on est parent. C'est-à-dire que quand t'es parent, tu te rends compte que ouais, effectivement, tu fais de ton mieux. C'est tout. Tu ne peux pas... t'es pas cette masse invincible, cette espèce de pôle de confiance absolue. On est des quiches, quoi. Moi, je suis un adolescent. Avec ma femme, on se regarde des fois, on se dit, mais comment ça fait qu'on a la responsabilité de deux enfants? On est des gamins. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas d'adultes. Il n'y a que des gamins de différents âges. Et nous, on est des gamins avec de 35 ans. Et on a, du coup, la responsabilité de gamins de 6 et 2 ans. Et donc, quand on est parent, on prend conscience de ça. On se rend compte qu'on n'est pas du tout prêt, nous, à s'occuper d'enfants, et donc que nos parents sont certainement dans les mêmes conditions. D'autant que moi, mes parents m'ont eu très jeune. Mon père avait 25, ma mère 20. Donc aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai un très clair souvenir de mes parents à 30 et 25 ans, du coup, puisqu'ils ont eu 10 ans d'écart avec... ma mère avait... j'avais 15 ans quand ma mère avait l'âge que j'ai maintenant. Donc je sais très bien où j'en étais dans ma vie. Je me rappelle très bien qu'elle devait jongler son taf, ses études, parce qu'elle était, elle a fait des études très longues, et puis ses trois enfants. Enfin ouais, chapeau quoi. Donc oui, effectivement, il y a deux trois trucs sur lesquels je trouve qu'elle a merdé, mais en vrai, de manière générale, ils ont été vraiment bons, vraiment.
Qu'est-ce que ça a changé toi dans ton rapport à eux, à tes parents?
Ben moi, c'est devenu des grands-parents dans ma tête. Donc j'espère plus rien. En fait, c'est ça aussi ça. C'est que quand je parle avec mes parents d'éducation, je me dis pas, je suis pas dans une démarche de vous auriez pu faire attention avec moi. C'est plutôt là vous êtes des grands-parents et voilà ce que je pense ce qui moi m'a manqué. Vos parents ont merdé sur tel truc et en tant que j'ai des petits enfants il y a pas longtemps et je peux vous dire que là j'ai des petits enfants et j'aimerais bien que vous dormiez qu'ils dorment chez vous. J'aimerais bien qu'ils prennent vraiment du temps pour jouer. J'aimerais bien que, tu vois, mon père adore le foot, moi je peux pas supporter ça. Ça l'a fait chier toute mon enfance parce qu'il pouvait pas m'emmener au stade. J'aimerais bien qu'il emmène mon fils au stade et qu'il essaye. Peut-être qu'avec lui ce sera cool et que mon fils ait des souvenirs avec son grand-père.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc maintenant, j'attends quelque chose d'eux en tant que grands-parents. Et comme ils m'ont éduqué là-dedans, j'attends rien en vrai. J'aimerais qu'ils proposent, donc... S'ils appellent pas, je pense qu'ils verront jamais mes enfants de leur vie. Donc il faut aussi qu'ils sachent prendre cette place-là, quoi.
Ok. Comment tu... comment formuler ça
Est-ce que t'es pédophile? Oula, non, c'était ça. Je comprends que t'aies mis du temps à le formuler parce que...
c'est quoi ton rapport à l'éducation de tes enfants?
J'essaye de faire en sorte... j'adorerais que mes enfants soient libres de rêver et de travailler comme ils le sentent et sur les sujets qui les intéressent. En fait, c'est vraiment cet axe-là. J'aimerais... Là, par exemple, je suis sidéré. Je viens d'apprendre hier, mon fils a fait son entrée en CP. Je suis sidéré que sa maîtresse de l'année dernière, et je l'ai appris hier soir, lui ait dit « Tu sais, t'es bavard et t'as de la chance cette année d'être avec moi, mais si tu tombes sur, l'année prochaine sur une maîtresse qui... ça va être une autre histoire. » Et résultat, il était angoissé toutes les vacances et il a fait son entrée de CP angoissé. Et pourquoi? Parce que une bonne femme lui a juste mis ça dans la tête, sans le faire exprès. Évidemment, c'est pas méchant. Mm. C'était pas, je le dis, coucou. Je sais que t'as pas fait exprès.
C'était un conseil bienveillant.
Voilà. Et en fait, je me rends compte que toutes nos expériences d'éducation les uns aux autres, on arrive au stade où il faut qu'on s'éduque nous-mêmes. Pour pouvoir réaliser que quand tu dis à un enfant « attention, tu vas tomber », bah, lui, il reçoit qu'il va tomber. Alors que « attention, tu risques de tomber », il se rend compte qu'il y a un risque et qu'il doit faire attention. Et dans ce langage, il est hyper important pour les enfants. Et on l'oublie complètement parce que nous, c'est comme ça. C'est « fais pas ça, tu vas te faire mal ». Et on est très égocentrique parce que nos propres vies nous obsèdent et qu'on a beaucoup de travail et qu'on est surchargé. Mais un enfant, il est... Et c'est une petite chose fragile, quoi. Il faut vraiment en prendre conscience, et surtout au niveau du cerveau. Il n'a pas encore les armes pour se dire quand mon père vient et m'en colle une, c'est certainement parce qu'il est très énervé du reste de sa vie. Non. Quand un enfant se prend une claque, il se dit juste j'ai été mauvais. Et moi, c'est quelque chose que j'accepte pas. Je veux pas que mon fils se dise j'ai été mauvais. Je veux qu'il comprenne à chaque fois que quand il se fait disputer parce qu'il y a quelque chose que j'espérais de lui et que j'attendais de lui et qui a pas été fait ou il y a des mille raisons de disputer un enfant. Mais d'ailleurs, on n'est pas vraiment dans la dispute, on est plus dans la punition. C'est-à-dire que moi, je suis dans la. C'est pas la punition, c'est. Par exemple, le petit est dans une phase où il râle énormément. Mais évidemment, il y a plusieurs manières de réagir à ça. Il y a d'abord la manière absolument stupide pour moi, c'est de lui coller une fessée et de lui dire maintenant ça suffit. Parce que là, répondre à la violence du cri par la violence des gestes, évidemment, ça donnera rien. Il y a lui hurler dessus pour lui dire qu'il faut qu'il s'arrête. Il y a mille manières de réagir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il a le droit d'hurler, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de tout ça, mais dans un environnement qui nous fait pas chier. Donc il a le droit d'aller dans sa chambre et exprimer tout ça et râler et venir ensuite, une fois qu'il a posé tout ça, nous expliquer exactement ce qui lui va pas et pourquoi. Et je pense que c'est toujours mieux, c'est presque faire de l'éducation interactive. J'aime bien que mes enfants soient conscients de ce qu'on essaie de leur faire travailler. Et que, parce que du coup, ils ont forcément le recul. Et je vois Victor, mon grand, et il est extraordinaire avec son petit frère. Il n'a jamais levé la main sur lui, et il a toujours été très pédagogue, et pourtant, il n'a que 6 ans et demi. Et je pense que là, au-delà même, ce que je dis à ma femme l'autre jour, elle m'a rayonné parce que c'est complètement débile comme idée, mais même au-delà d'apprendre des mathématiques, de la chimie, du français, tout ça, pour moi, c'est complètement secondaire. Si on faisait que apprendre de la pédagogie aux enfants, eh ben, on aurait... que des humains pédagogues. Et les humains pédagogues iraient naturellement vers les choses qui les intéressent, puisqu'ils seraient libres d'aller chercher tel truc, ils n'auraient pas de jugement parce qu'ils seraient aimés. Et il n'y aurait pas de... tous les humains seraient libres, donc il n'y aurait pas besoin qu'une certaine catégorie de la population dise les autres c'est des intellos, parce que putain, lui il sait trop de trucs. Il n'y aurait pas cette vengeance-là. Il y aurait, ah ouais, lui il est fort en maths, bah, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire géo. Donc chacun se passionnerait pour son sujet, quoi. Ça, c'est mon rêve ultime.
Faut aller à l'éducation nationale, mon vieux.
Ouais, hein.
Il cherche
mais il faudrait aller tout en haut de l'éducation nationale. Oui. Mais en même temps, ça se trouve, c'est une idée débile. Hein. Ça, je remets en question aussi le truc. Ça se trouve, c'est mon point de vue et puis il est complètement, complètement infaisable. Et si toute la société suivait mon idée, eh ben, on irait peut-être droit dans le mur, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, des enfants passionnés fonctionne mieux, et c'est toute l'éducation de
Montessori
ouais, c'est ça, et de Céline Alvarez, ouais. Qui est passionnante aussi, c'est juste faire en sorte que les enfants soit libre de, d'aller vers, vers ce quoi il, vers ce qui les nourrit quoi. Et ça pour moi,
tu disais que tu voudrais bien que tes enfants soient libres, ce qui pour moi est vraiment le un but cool en tant que parent. Ouais. Comment tu fais pour les éduquer au quotidien à la liberté?
Eh ben, il n'y a jamais rien d'interdit qui soit... Enfin, il n'y a jamais rien d'interdit, ça, c'est la théorie. Après, je suis un papa. Donc, se dire qu'il y a des fois... S'il vous plaît, deux secondes, je peux avoir un peu de silence. Voilà, il y a ça. Je ne suis pas un super-héros, clairement. Tout ce que je vous dis, en plus, je sais qu'il y a une caméra, donc tout ce que je te dis, j'essaie d'être le mec génial que je rêvais d'être. Maintenant, on a les objectifs et ce qu'on est capable de faire. Mais au quotidien, mon idée, c'est de faire en sorte de ne jamais être... dominé par mes propres énervements et mes propres angoisses. De la même manière, quand je gronde Victor parce qu'il a fait une bêtise et qu'en fait, lui, il a le droit de m'expliquer pourquoi il a fait cette bêtise-là, par exemple. C'est pas un truc de tu vas dans ta chambre et tu te tais. C'est... faudrait que je trouve un exemple concret, mais... Par exemple, il peut venir me réveiller pendant que, alors que j'ai un timing précis, que je rentre de tournée, que j'ai un décalage horaire dans la gueule, que le soir je rejoue et que je rentre à la maison, que j'ai à peine le temps de faire mes bagages, que j'ai pris une heure et demie pour jouer avec lui et puis lui faire des câlins. Et là, je lui dis, s'il te plaît, j'ai juste besoin d'une demi-heure avant d'aller au théâtre, il faut que je dorme et je vais me coucher. Et ben, il peut s'avérer qu'il vienne me réveiller et que je lui dise, mais c'est pas possible, quoi, je t'ai demandé il y a deux minutes. Eh ben, il a tout à fait le droit de me dire « Oui, j'ai bien compris, mais il y a Marius qui est en train de faire bouillir de l'eau et qui met ses mains dans la casserole. » Donc, il a l'opportunité de dire ça. Et je m'excuse auprès de mes enfants aussi beaucoup. Je leur dis que je n'ai pas la science infuse et que quand j'ai merdé parce que je les ai grondés pour la mauvaise raison, eh ben, je suis désolé, je m'excuse et je suis « Ah, c'est pas grave, papa, je te pardonne. » Ils ont le droit d'intervenir dans leur propre éducation. J'essaye de faire en sorte que qu'ils soient concernés eux-mêmes par... Ça, c'est bon côté parce qu'effectivement, ça les fait rayonner. Et ça, c'est mauvais côté aussi, c'est que des fois, c'est compliqué pour un enfant de exactement voir où est la limite. Donc, c'est moins confortable qu'une bonne trempe où tu sais que si tu fais ça, tu vas t'en prendre une. Et puis qu'après, c'est peut-être moins confortable. Mais à long terme, je pense que par contre, ça développe, j'espère. J'espère que c'est pas n'importe quoi. Dans 15 ans, je vais réaliser, ok, ça marche pas. C'est j'avais plein de théories. On revient sur la vidéo qu'on avait faite. J'ai fait que de la merde. Mais tu vois, là, pour le coup, là-dessus, je vois mon fils qui est ultra pédagogue avec le deuxième. Le grand fils qui est pédagogue avec le deuxième. Le deuxième, du coup, il est très à l'aise. Et il est hyper cool dans sa vie. Mais il y a des fois... Il faut que je rappelle au premier que, quand il se prend une trempe, il a quand même le droit de réagir et de lui dire, on tape pas. Ou quand le deuxième a envie de jouer avec un jouet que le premier a, c'est pas parce qu'il hurle qu'il faut lui donner. Faut que, justement, il applique tout ça, quoi.
Ça devient d'où? C'est quoi? T'as des inspirations? T'as des lectures? T'as eu des trucs? Ou alors c'est juste du gros bon sens?
Ouais, après, moi, j'ai des parents qui m'ont jamais frappé, qui ont été, ils ont une démarche déjà assez cool. Et très libertaire, peut-être un peu trop pour le coup. J'ai eu l'impression d'être vraiment livré à moi-même beaucoup, ce qui est vraiment pas un problème aujourd'hui, mais du coup j'ai vu déjà, moi, la violence, c'est un truc qui me débecte, et donc j'essaye, à la base mon idée c'était de faire de ces enfants des non-violents, donc qu'ils soient capables d'expliquer un problème et de trouver des solutions sans passer par le hurlement, sans passer par l'humiliation. Ça, c'est encore un problème humain, c'est qu'on est obligé de dominer l'autre. Pour exister dans cette société, il faut dominer, donc humilier. Et une fois qu'on a un stade de domination, on a tendance naturellement, puisqu'on est tous humains, à profiter de ce statut de... Eh ben moi, je voudrais qu'ils réussissent à se hisser jusqu'à ce statut social de dominant, mais qu'ils n'en profitent pas pour écraser, mais au contraire pour donner la main. Et ça, ouais, je me dis que si on avait tous cette démarche-là, en fait, on se hisserait tous les uns les autres. Avec l'humanité serait meilleure. Je suis vraiment putain d'utopiste débile.
Non, je pense pas.
Putain, je suis obligé de faire ce genre de vidéo avec toi. Je peux pas faire ça Je peux pas faire une vraie interview avec le Figaro. Excusez-moi, mais il est où le comique là? Pourquoi? Il est pas censé raconter des trucs.
Ramenez-nous les blagueurs. Où sont les blagues? Non, mais tu disais tout à l'heure, avant qu'on démarre, que t'étais content d'avoir des garçons, en tout cas, parce que tu pouvais en faire des féministes.
Ouais,
on parlait tu parlais de domination, voilà un bon truc. Déjà, d'où ça devient? Pourquoi? D'où ça devient? Parce que c'est pas fondamentalement ancré. Hein.
Ouais, c'est vraiment pas...
Dans la conscience collective pour l'instant.
On se bagarre. Moi, je suis pour l'égalité. Donc le féminisme, je pense que le vrai problème du féminisme, c'est le mot. C'est le non-féminisme. Ce qui fait que les gens les non-éduqués, on va les appeler comme ça, sans ironie, sans méchanceté, rien du tout, mais les gens qui ne comprennent pas le féminisme et donc qui le refusent d'autant plus qu'il y a le mot femme dedans. Féministe, les connasses de féministes, combien de fois on a entendu ça ? Et ben moi, je suis un connard de féministe parce que je sais ce que c'est que le féminisme, c'est l'égalité. Et j'ai encore une fois l'utopie totale de croire, et peut-être que je vais évoluer là-dessus, mais de croire que si on était vraiment tous égaux, ce serait moins problématique. J'ai l'impression que, en fait, ce qui tire les gens vers le bas, c'est l'angoisse d'avoir moins que les autres. Et que si finalement on disait, tout le monde manque, tout le monde a trop, tout le monde, il y aurait une espèce de simplicité qui se retrouverait dans nos rapports, les uns avec les autres. Moi, j'ai de la chance d'être un personnage un peu public, donc les gens qui viennent me voir, ils ont d'emblée, ils me connaissent un peu, donc ils sont toujours sympathiques avec moi. Et j'adore cette vie. C'est hyper cool d'avoir que des gens sympas qui viennent me parler intelligemment. Je suis pas confronté de manière systématique à des mecs qui te font la gueule ou qui te jaugent, qui s'imaginent quelque chose de toi en se disant ok, voilà le genre de mec à qui j'ai affaire et qui du coup vont être perfides parce qu'ils sont en défense, parce qu'ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Si finalement on arrivait à fabriquer cette société-là dans laquelle tout le monde avait les mêmes chances, on se poserait pas la question de savoir si c'est un homme, une femme, même un enfant, pourquoi pas. Il peut y avoir des enfants très précoces qui ont aussi une capacité de réflexion qui pourrait servir notre communauté qui s'appelle l'humanité. Et donc, dans cette communauté qui s'appelle l'humanité, je trouve ça incroyable. Et c'est pas de notre faute, et c'est pas de la faute des non-féministes. Mais c'est juste que toute l'histoire du monde a fait qu'aujourd'hui, on en arrive au stade où les femmes sont pas autant considérées que les hommes. Et on peut refuser de le voir, vraiment, et je comprends qu'on puisse refuser de le voir. Il y a même des gens qui sont pas féministes en disant « Merde, pourquoi on leur tendrait la main ?» De la même manière qu'il y a des gens qui sont pas racistes en disant « Moi, je ne considère pas que les Arabes faut leur tendre la main, je suis égalitaire. » L'égalité, des fois, elle a ses petits plus et ses petits moins. Moi, je pense que c'est pas l'égalité qu'il faut viser, mais c'est l'équité. C'est-à-dire que il faut être conscient quand même que notre inconscient, et même moi qui suis féministe, je dois travailler en permanence dessus, notre inconscient nous pousse à utiliser nos points forts. Et quand on est avec une femme, elle a parfois une voix un petit peu moins puissante que la nôtre et c'est un peu plus facile de la couper. Et l'exemple de Yann Moix sur On n'est pas couché de la semaine dernière où il a été insupportable avec cet auteur, je ne sais plus comment il s'appelle.
J'ai pas la ref. Mais...
Ouais, il a fait une... dans On n'est pas couché la semaine dernière, okay. Il y a une auteure qui arrive, qui parle de son livre et il la détruit et à chaque fois qu'elle essaie de parler juste il la coupe, donc elle a pas elle ne veut même pas sortir d'arguments qui sont même pas construits ou pas construits. C'est juste là on a l'exemple type du mâle qui ne tend pas la main, qui juste est dans sa manière brutale. Et encore une fois, ça c'est une réaction de violence qui vient de la peur. C'est que moi qui doit exister dans le monde dans lequel il est, et ce coup-ci, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas féministe, parce que le racisme, c'est pareil, il y a pas de... je pense pas que ce soit ancré profondément, mais chaque acte est soit raciste, soit féministe, soit égalitaire. Moi, j'essaye que mes actes ne soient pas... ou même l'homophobie, encore une fois, tu vois. Y a l'exemple en télé récemment encore de gens qui sont homophobes. Alors, ils ne le sont pas profondément, forcément. Mais en tout cas, leurs actes sont homophobes. Et pour qu'on arrive à ne plus avoir d'homophobie, il faut faire en sorte d'éduquer les gens à faire en sorte que leurs actes ne soient plus homophobes et plus sexistes, etc., etc. Et donc moi, je m'éduque en permanence à ne pas être sexiste. Mais il m'arrive parfois d'être en bagnole, de me faire doubler par une bonne femme qui est dans un énorme 4x4 et d'avoir cette réaction stupide de ah putain la connasse, voilà, elle a pris la bonne, ah non. Attends, c'est pas forcément la bagnole de son mari, c'est peut-être juste effectivement une meuf qui conduit n'importe comment mais qui gagne sa vie, qui fait son truc. Et on a c'est très difficile de lutter contre, mais il faut. Et donc moi j'ai de la chance d'avoir deux garçons et de pouvoir dès le début travailler ça. Dès le début, quand ils regardent un dessin animé, ils ont pas énormément accès aux écrans, parce que c'est pas quelque chose dont je suis fan, mais quand ils ont accès aux écrans, on est toujours dans le coin avec ma femme pour essayer de voir si... Et on n'est pas des psychopathes, hein, on n'est pas des donneurs de leçons, juste on agit. Et j'essaie de faire en sorte que quand mon fils regarde un dessin animé dans lequel il y a le héros qui est un pompier... qui sauve des vies, le deuxième héros qui est le policier et qui du coup fait respecter la loi, et la troisième héroïne qui est une infirmière et qui du coup est très douce. Je me dis, bah attends, ça veut dire quoi? Donc, c'est, les femmes sont forcément très douces et les hommes, ils sauvent les gens et puis ils font respecter la loi. Je me dis, oh bah non, c'est débile. Et je suis content qu'il y ait ça, ce réflexe-là. De dire, bah non, je vois pas pourquoi ce serait pas la femme qui serait pompier ou. Voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir dès le début cette réflexion, quoi. Et que lui, il se fasse des copines et des copains. Et que. Bah voilà, enfin, j'essaye de faire ça.
Cool!
Ouais.
Vous avez des. Comment dire? Des différences de vision sur l'éducation avec ta femme?
Je crois pas.
Non?
Et dès qu'on en a, on s'éduque l'un l'autre. Nous, on est déjà dans notre vie, on s'engueule très très peu. On a la chance de s'être rencontrés très tôt. Bon, à l'âge où on fait encore des concessions. Si je l'avais rencontré aujourd'hui, je serais certainement comme tous les mecs de 35 ans. J'ai mes habitudes, je sais comment je fonctionne. Me fais pas chier parce que tout seul, je fonctionne déjà. Nous, on avait 17 ans et à 17 ans, on rêvait de l'amour pur et absolu. Et on a aussi eu cette espèce de chance, c'est d'être tous les deux des gens qui parlent. Et donc petit à petit, on a entraîné nos oreilles. C'est-à-dire que moi, je parle et je m'exprime énormément quand il y a quelque chose qui ne va pas, et elle aussi. Et donc du coup, j'ai appris à l'écouter. J'essaie aussi d'être quelqu'un qui écoute. Et donc quand il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord dans notre éducation, et d'une, on fait rempart commun. Quoi qu'il arrive, s'il y en a un qui a dit pas de glace et que l'autre dit bah, pourquoi pas de glace, il va pas lui dire bah si, glace, je suis désolé, n'écoute pas ta mère, elle est complètement kéblo, donc elle a dit pas de glace, ce sera pas de glace. En revanche, je peux prendre ma femme 2 minutes à part et lui dire je comprends pas pourquoi à ce moment-là, il a fait ça, tout est cool, il fait beau, demain il a pas école, pff, viens, on kiffe quoi. Et puis elle se remet en question de manière totale très facilement et moi aussi. Donc du coup, quand on n'est pas d'accord, c'est juste qu'on considère qu'on a tous les deux pas les informations nécessaires, ou juste que faut trancher quoi. Donc ouais, des fois on n'est pas d'accord. Il y en a un qui pense ça, l'autre qui pense ça. C'est le premier qui parle qui a raison. Donc on n'a pas vraiment de, il y a pas de guerre quoi.
Ok.
Ouais.
Comment tu t'imagines perdre en 10 ans?
Ça m'angoisse pour le coup, parce qu'ils vont être adolescents et je ne sais pas du tout comment. Je peux me retrouver face à des adolescents. Là, je gère plutôt. Enfin, j'ai du plaisir à gérer. Je ne veux pas dire que je gère plutôt bien, parce que j'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai du plaisir à gérer un enfant de 6 ans et demi et de 2 ans et demi, parce que je sens que j'ai de l'influence, que je peux faire pivoter. Et de l'influence, c'est pas. Le mot influent, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, mais c'est même. Je leur apprends à être optimiste dans la vie, je leur apprends à être joyeux, je leur apprends à être bienveillant. Je leur apprends à faire en sorte de, quand ils savent faire quelque chose et que l'autre ne sait pas le faire, plutôt que de rouler des mécaniques, leur dire bah viens, je vais t'aider, je vais t'apprendre. Quand mon fils a du mal à dessiner, par exemple, il a un problème à l'œil et donc il a la spatialisation lui pose problème. Mmh. Il a l'œil gauche ou l'œil droit, ça dépend duquel il travaille, qui fonctionne. Donc pour l'instant, on fait en sorte, mais normalement ça devrait se tasser, mais pour l'instant, il travaille ça. Et donc il se retrouve des jours entiers avec un cache-œil. Donc il a juste un œil qui fonctionne. Et donc il y a forcément des choses sur lesquelles il est moins développé. Par exemple le ping-pong, une balle grosse comme ça, qu'elle soit là ou qu'elle soit là, quand t'as qu'un seul œil, tu vois pas la différence. Mm-hmm. Donc c'est un manche, c'est une quiche au jeu de raquette, c'est impossible. Et en revanche, il y a d'autres trucs sur lesquels il est très à l'aise. Tu l'as vu, je me balade en roue électrique. Bah ça, il a 6 ans et demi, il sait déjà maîtriser l'outil parce que je jouais avec lui. Donc déjà, il sait faire des choses que certains ne savent pas faire, et quand il ne sait pas faire des choses, faut pas qu'il ait honte de pas savoir le faire, faut qu'il apprenne. Et de la même manière, faut qu'il dise aux autres quand ils savent pas faire, bah c'est pas grave, je vais t'apprendre, on va réfléchir ensemble. Mais oui, il y a des trucs sur lesquels t'es fort, d'autres sur lesquels t'es pas fort, et il dessine vachement bien maintenant, alors qu'il y a encore 2 mois, c'était une catastrophe. Et donc voilà, je gère ce truc-là où j'arrive à l'influencer pour qu'il soit capable de. Putain, j'ai fait une digression tellement longue que j'ai oublié la question.
Tu parlais de l'adolescence.
Ouais, c'est ça.
Tu avais peur de.
Donc là, maintenant, j'arrive à gérer ça. Mais est-ce que à 16 ans, quand il aura des idées arrêtées, parce que c'est ça l'adolescence, c'est qu'on a envie de savoir des choses, on a envie de marquer le fait qu'on les sait. Là où moi, j'essaye d'arriver au stade où justement, je ne sais pas, je ne sais plus rien. J'apprends tout le temps. Comment je vais gérer un adolescent qui est en. Et si ça se trouve, l'éducation qu'on leur a donnée fera qu'à 16 ans, ils se mettront. Et ils diront, mais alors attends, pourquoi je suis en opposition? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors qu'ils ne seront même pas en opposition, qu'on discutera. Moi, je sais que j'étais un adolescent très cool, j'étais très facile. Et bah, on verra quoi. Mais je sais pas, en fait, je crois que je ferai du mieux que je peux tout le temps. En fait, c'est ça mon credo, moi, c'est vraiment que je fais du mieux que je peux. Et parfois, le mieux que je peux, il n'est pas terrible. Hein. Tant pis.
C'est le jeu.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que tu aurais un message à donner à tes deux fils si jamais ils écoutent ce podcast dans l'internet à un moment donné, quand ils seront plus grands?
Ouais. Juste le EPST. Ça, c'est un truc que j'ai créé avec mon petit. C'est que tous les soirs avant qu'il dorme, en fermant la porte, je fais juste EPST pour qu'il tourne la tête. Et quand il tourne la tête, je disais je t'aime. Et en fait, maintenant, EPST, ça va avec je t'aime. Et on en est au stade où on se dit juste EPST et que l'autre répond je t'aime. C'est trop mignon. Donc là, j'en dirais ça. EPST. Et les deux. C'est trop mignon. On se dit énormément je t'aime. Les deux frangins se disent je t'aime. J'adore ça. C'est génial. Ça fait du bien de se sentir aimé.
Ouais, c'est cool. Tu vas en faire des mecs un peu évolués, quoi, tu vois.
J'espère.
Ouais.
Ou alors,
en tout cas,
ou alors des mecs qui ont une espèce d'idéologie complètement irréalisable dans ce monde et qui vont se faire bouffer. Moi, je pense que non. Faut leur donner le cerveau pour pouvoir défendre ce genre d'opinion.
C'est cool de pouvoir exprimer ses sentiments.
Ouais.
Ah ouais. Ses émotions.
Ah ouais.
Il n'a pas beaucoup l'occasion en tant que mec.
Non, ouais, parce qu'on parle du féminisme où les femmes, je trouve qu'elles ont un rôle. Encore une fois, on grossit, mais. Mais ce qui va avec le féminisme, c'est aussi, avec l'absence de féminisme, avec le sexisme, c'est aussi cette obligation pour nous d'être des mâles dominants. Moi, ça m'excite pas plus que ça, d'être un mec qui... Enfin, j'adore le rugby, tu vois, mais en prenant l'image du mec qui joue au rugby et qui sort sa bite en soirée, je suis pas ce mec-là du tout. Et dans la société dans laquelle on est, bah, parfois, les mecs qui font ce genre de trucs ont plus le droit à la parole, quoi. C'est dommage. Donc c'est pour ça que je suis du one man. Comme ça, ils sont obligés de se taire. Et j'ai le temps de développer mes idées.
Bon, mais... merci beaucoup, Verino, pour ce moment.
Mais de rien, avec plaisir. Du coup, je vais vous payer la séance quand même. Hein. C'est quand même une bonne heure de discussion. Je sais que vous allez vous arracher sur ce montage.
Non, ça va être très, très bien.
Bon, à bientôt. Courage, hein.
Salut. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode d'Histoire de Daron. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je compte bien poster des interviews régulièrement, et n'oubliez pas de mettre une note sur iTunes, ça va aider le podcast à gagner en visibilité. Merci beaucoup, et à très bientôt.